Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Goncourt et moi, journal de bord d'une lectrice. Un texte d'Audrey Martel, paru le 4 décembre 2023 dans la revue La Libraire. 4 novembre 2023. J'adore les listes. J'ai toujours aimé être guidée dans mes lectures. Que ce soit les 100 livres à lire avant de mourir, les 50 livres préférés des Français, les 25 plus grands romans américains. Je les parcours compulsivement. Je coche ceux que j'ai déjà lus. Je prends en note ceux qu'il me reste à lire et, bien sûr, j'angoisse devant ma pile à lire qui ne cesse d'augmenter. Au moment d'écrire ces lignes, le lauréat du prix Goncourt n'a pas encore été dévoilé. J'achève ma lecture de « Sarah, Suzanne et l'écrivain » Gallimard. J'aurai alors lu les 4 finalistes du Goncourt. Ce n'est pas que je sois passionnée par ce prix littéraire, mais c'est une liste de lectures. Une liste de lectures prestigieuses, qui plus est. Et je trouve ça fascinant. En tant que libraire, j'aime l'idée de découvrir une pépite méconnue. Comme plusieurs, j'ai le fantasme d'être celle qui lancera une carrière en portant à bout de bras le roman magistral d'un obscur primo-romancier. Cela dit, ce n'est pas ce que je recherche d'abord et avant tout quand je lis. Je veux davantage être émue et éblouie. J'aime me reconnaître dans les personnages, mais aussi être dépaysée. Je cherche par ailleurs à comprendre le monde dans lequel j'évolue. C'est justement pour cette raison que j'aime lire les livres dont tout le monde parle, que ce soit un prix littéraire ou un succès populaire. N'y a-t-il pas plus grand miroir de notre société qu'un livre plébiscité par la majorité? Ainsi, au terme des 150 pages que je terminerai dans la prochaine heure, lire rapidement un des atouts des libraires, serais-je en mesure de mieux comprendre les préoccupations qui intéressent les lecteurs en 2023, et plus précisément les membres de l'Académie Goncourt? 5 novembre 2023. J'ai terminé Sarah, Suzanne et l'écrivain. Je crois que ça pourrait très bien être un livre goncourisable. Depuis des années, Éric Reinhardt flirte avec les prix littéraires sans pour autant être lauréat. Son plus récent roman est à la fois intriguant, original et captivant. Dans « Sarah, Suzanne et l'écrivain », Reinhardt s'amuse à brouiller la frontière entre la réalité et la fiction et il y parvient avec beaucoup de talent. Sarah approche l'écrivain pour lui raconter un épisode de sa vie qui pourrait, selon elle, devenir un roman. Ensemble, ils créent le personnage de Suzanne. La narration alterne ainsi entre ces personnages, nous faisant perdre nos repères. On se laisse manipuler par l'auteur, et c'est franchement intelligent. Un roman dont l'originalité n'est pas sans rappeler L'anomalie de Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020. Parmi les finalistes se trouve également Neige Sinaud, pour son livre « Triste tigre, P.O.L. ». Un récit bouleversant dans lequel l'autrice relate les abus sexuels dont elle a été victime pendant des années. Elle cherche à comprendre comment un homme ordinaire peut devenir un bourreau dans une réflexion qui rappelle l'adversaire d'Emmanuel Carrère. Neige Sinaud réfléchit à l'écriture comme acte de rébellion et comme geste salvateur, et se questionne sur les grandes œuvres littéraires portant sur l'inceste. Bien qu'il soit excellent, « Triste tigre » n'est pas un livre facile, ni même plaisant. C'est toutefois un livre nécessaire, qui nous bouscule et force notre empathie. Christine Angot, une autrice qui a consacré une large part de son œuvre à la question de l'inceste, siège désormais à l'Académie Goncourt. Est-ce que sa présence sur le jury pourrait favoriser Neige Sinaud? contrairement à Triste Tigre, Veiller sur elle, l'iconoclaste, est un roman plaisant au fort potentiel commercial. Je dirais même qu'il revêt des airs de classique instantané. On y suit Mimo, un sculpteur talentueux mais un brin désagréable. À travers son histoire, c'est aussi une partie du XXe siècle italien que l'on découvre. Dans ce roman sur l'amitié, l'amour et l'art, on retrouve aussi une part de mystère qui en fait un vrai page-turner. Veiller sur elle est une véritable épopée magnifiée par l'écriture soignée de Jean-Baptiste Andrea. Un texte qui me fait penser à Au revoir là-haut, qui a remporté le prix Goncourt en 2013. Pour sa part, Humus, de Gaspard Koenig, L'Observatoire, est un roman au sujet super original. En effet, on y retrouve deux étudiants en agronomie qui développent une passion pour les vers de terre. Ils cherchent ni plus ni moins une façon de sauver le monde grâce aux lombrics. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui a nourri mon éco-anxiété. Toutefois, je ne pense pas que Humus pourrait remporter le prix Goncourt. Ce serait, à mon avis, trop politique comme choix. Rappelons que ce roman à saveur écologiste a été écrit par un philosophe avec des accointances communistes. Gaspard Koenig a par ailleurs annoncé son souhait d'être candidat aux élections présidentielles françaises en 2022, mais n'a pas cumulé les appuis nécessaires pour y parvenir. Dans 2 jours, nous connaîtrons l'identité du lauréat. Mais qu'est-ce qui définit un bon candidat au prix Goncourt, au fait? Le sujet d'actualité? L'originalité du style et du traitement? La camaraderie entre auteurs, éditeurs et membres du jury? D'une année à l'autre, je m'intéresse à ce prix littéraire. Je le lis souvent, le boude, parfois, mais je n'arrive toujours pas à établir un portrait juste qui me permettrait d'annoncer hors de tout doute le vainqueur de cette année. Mais puisqu'il le faut, je me lance, je mise sur « Veiller sur elle ». 6 novembre 2023. Aujourd'hui, Neige Sino a remporté le prix Femina. Il semblerait que cette victoire réduise considérablement ses chances de faire un doublé en remportant le Goncourt. En effet, en 2021, Didier Decoin, l'actuel président de l'Académie Goncourt, affirmait ceci : « Il ne faut pas oublier nos amis et alliés que sont les libraires. Si on donne 2 prix à un seul livre, ça ne fait qu'un livre dans la vitrine. » Merci, Monsieur Decoin. En entrevue dans la presse, le critique littéraire français Arnaud Vivian nous apprend que, jusqu'à tout récemment, le prix Goncourt suivait scrupuleusement le testament des frères Goncourt qui disait qu'il fallait favoriser le genre romanesque. La lecture de cet entretien a étrangement ébranlé mes certitudes. Je mise désormais sur Sarah, Suzanne et l'écrivain, même si ma préférence demeure pour Veiller sur elle. Je saurai demain si mon intuition était la bonne. 7 novembre 2023. Quelle surprise ce matin! L'Académie Goncourt a choisi de récompenser Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Quand j'ai proposé à l'équipe du magazine Les Libraires d'écrire un article sur le Goncourt, j'avais en tête de signer un texte d'opinion dans lequel je serais probablement en désaccord avec le choix du jury. Maintenant que le prix récompense mon livre préféré de la sélection, me voilà confuse. Que vais-je vous dire? Heureusement, j'ai déjà atteint la fin de ma chronique. Il ne me reste plus qu'à vous encourager à ajouter ces 4 excellents livres à votre liste de lecture. C'était « Le Goncourt et moi », journal de bord d'une lectrice, un texte d'Audrey Martel, paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. Mmh.
Comment encourager vos jeunes à bouger? Par Florence Dujoux, publié dans Verdict Santé le 14 mai 2023. S'amuser. Être actif en famille. Privilégier le transport actif. Encourager le jeu extérieur. Les jeunes Québécois sont moins en forme qu'avant, selon ce que démontre une récente étude du Dr Mario Leone, professeur associé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Les participants, âgés de 6 à 17 ans, ont fait preuve d'une plus faible capacité à fournir un effort physique soutenu en 2017 qu'en 1982. Ils ont réussi 30 % de paliers en moins au test navette, qui consiste à courir le plus longtemps possible entre deux lignes distantes de 20 mètres, le tout à un rythme croissant. Le plus préoccupant, c'est que 58 % des garçons et 70 % des filles de 17 ans n'ont pas atteint le seuil de consommation maximale d'oxygène, VO2 max, nécessaire pour prévenir les problèmes de santé à long terme, comme le diabète de type 2. Quelles sont les solutions pour augmenter la résistance des jeunes à l'effort? La réponse est claire, les faire bouger davantage. Le bulletin de l'activité physique 2022, publié par Participation, indique qu'à peine 28 % des Canadiens de 5 à 17 ans font les 60 minutes d'activité physique quotidienne recommandées par les directives nationales. Parmi les responsables de la sédentarité figurent le temps passé devant les écrans, la culture de la voiture, les défis de sécurité et notre rythme de vie effréné. Bien qu'il soit difficile d'inverser la tendance sans la concertation des gouvernements, des écoles et des parents, voici quelques pistes pour aider vos jeunes à être plus actifs un pas à la fois. S'amuser. Le point majeur, c'est que les enfants ont perdu le plaisir de bouger, explique Serge Bourdeau, président de la Fédération des kinésiologues du Québec. Pourtant, les activités informelles et ludiques, comme jouer à la tag, constituent d'excellents moyens de développer les capacités cardiovasculaires des petits. Dans les écoles, il y a plus de 20 ans que le programme d'éducation physique, axé sur la compétition et la maîtrise technique, a été remplacé par un programme visant à promouvoir de saines habitudes de vie. Le but, c'est que chaque jeune trouve sa porte d'entrée vers une vie active grâce à la diversité des activités proposées, souligne Christian Leclerc, directeur général de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec, FEEPEQ. De même à la maison, il ne s'agit pas de faire de votre enfant un champion, mais plutôt de favoriser son développement et sa santé. Restez à l'écoute de ses préférences s'il n'aime pas les sports d'équipe. Il pourrait être attiré par les activités individuelles, le jeu extérieur ou le plein air. Être actif en famille. Si vous vous demandez comment intégrer l'activité physique à votre horaire familial, sachez que vous n'êtes pas seul. Pourtant, il est essentiel de ralentir si vous avez un bambin. Chez le jeune enfant, l'ensemble du développement passe par le jeu et le mouvement, insiste Suzanne Gravel, coordonnatrice du Consortium québécois de développement des pratiques psychomotriques, CQDPP. Prendre le temps de jouer avec lui. De marcher à son rythme ou de l'emmener jouer au parc s'avère une clé de la motivation à bouger. Sans l'implication des parents, notre incidence sur l'activité physique des enfants est mineure, constate Bruno Chouinard, enseignant d'éducation physique à l'école Jardin des Saints-Anges à la Chine. Renseignez-vous sur les activités gratuites dans votre quartier comme la natation, le patinage ou encore le badminton. Par ailleurs, le prêt de matériel de plein air est proposé sans frais par plusieurs municipalités, notamment dans les bibliothèques et dans les parcs. De plus, plusieurs cours et gymnases d'école sont accessibles au public en dehors des heures normales de classe. Privilégier le transport actif. Pensez aussi au trottibus, un autobus pédestre qui permet aux élèves du primaire d'aller à l'école à pied de façon sécuritaire. À ce sujet, la Société canadienne du cancer propose aux communautés intéressées un projet clé en main. Pour encourager les familles à marcher davantage, certains établissements ferment leurs rues à la circulation. C'est le cas de l'école Saint-Benoît à Montréal. Autre initiative intéressante, le programme Cycliste averti de Vélo-Québec cible les élèves de 5e et 6e année. Il inclut la pratique des habiletés techniques et l'apprentissage de la signalisation routière validée par un diplôme. De quoi vous rassurer sur la capacité des jeunes à se rendre à l'école à vélo en sécurité. Impliquez-vous dans l'école et usez de votre influence dans le conseil d'administration et les comités de parents. Aussi, soyez un modèle en étant actif vous-même, conseille Christian Leclerc. Plutôt que de prendre votre auto, marchez ou faites du vélo dans le quartier. Au besoin, Vélo-Québec propose un programme « Tout à vélo » destiné aux femmes qui n'ont jamais eu l'occasion de découvrir le cyclisme. Encouragez le jeu extérieur. Sauter dans les flaques, construire un fort, grimper aux arbres. Les enfants qui jouent dans les espaces verts bougent davantage, selon Prescrit Nature, premier programme québécois de prescription d'exposition à la nature. De cette façon, ils développent plus rapidement leur capacité motrice tout en améliorant leur capacité de concentration. La peur des parents est parfois un obstacle à l'activité physique des enfants, fait remarquer Yannick Lacoste, enseignant d'éducation physique à l'école primaire Laurentide à Montréal. Plusieurs adultes limitent le jeu dehors, supervisent étroitement leurs enfants ou vont les reconduire pour prévenir les risques de blessures, d'accidents de la route ou même d'enlèvements, comme le rapporte la table sur le mode de vie physiquement actif, TMVPA. Bien que cette peur puisse être légitime dans certains contextes, pensons à Maria Legankovska, âgée de 7 ans, morte après avoir été heurtée par une voiture en se rendant à l'école en décembre 2022. Les avantages du jeu actif sont beaucoup plus importants que ses risques. Une solution? Miser sur la collectivité et se regrouper en créant des comités de parents pour agir sur les situations plus risquées et parfois, tout simplement, pour s'aider à contrôler ses peurs, suggère Suzanne Gravel. Pour en savoir plus, lisez les recommandations de Participaction pour amener les enfants à être plus actifs. Consultez VIFA Magazine, une mine de conseils sur l'activité physique en famille. Parlez aux adolescentes des événements Filles actives. C'était « Comment encourager vos jeunes à bouger? » un texte de Florence Dujoux, paru le 14 mai 2023, dans Verdict Santé.
Treize faits sur la conduite automobile. Un texte de Stephanie Gray, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest. 1. Les véhicules électriques, VE, deviennent une option de plus en plus populaire pour ceux qui souhaitent économiser et réduire leur empreinte carbone. En 2022, 10% des voitures vendues dans le monde étaient électriques, soit 10 fois plus qu'en 2017. Dans le cadre de son programme de réduction des émissions de GES, le gouvernement exigera qu'en 2035, toutes les nouvelles voitures et camionnettes vendues au pays soient des véhicules électriques. 2. Le crédit pour l'invention de la première automobile revient souvent à l'ingénieur allemand Karl Benz, lequel a déposé un brevet pour sa Motorwagen à trois roues et à essence en 1886. Mais c'est sa femme Bertha qui a effectué le premier trajet longue distance au monde au volant d'une automobile en montant à bord de la Motorwagen à l'insu de son mari et sans permis de conduire. Elle a roulé 96 kilomètres de Mannheim à Wörsheim en 13 heures environ. 3. Aujourd'hui, environ 70 % des pays conduisent à droite, à l'exception de l'Australie, de l'Inde, du Japon et du Royaume-Uni. Il semblerait que les Romains de l'Antiquité conduisaient leur chariot du côté gauche du chemin afin de pouvoir manier une arme de la main droite. Lorsque le transport par voitures attelées a augmenté en France à la fin des années 1700, Napoléon a ordonné que la circulation se fasse à droite, règle qui s'est répandue dans les territoires français. Avant les années 1920, le Canada a, pour sa part, adopté la conduite à droite pour faciliter la circulation vers et en provenance des États-Unis. 4. Malgré le succès du télétravail, 4 Canadiens sur 5 se déplacent pour se rendre au boulot et la majorité d'entre eux le font en voiture. Conduire plus de 2 heures par jour peut avoir des effets négatifs sur la santé physique et mentale en raison de la position assise pendant longtemps. Heureusement, le déplacement quotidien moyen des Canadiens est d'environ 24,5 minutes. Un individu passerait 4,3 ans de sa vie dans un véhicule, dont 54 heures par année coincées dans la circulation. 5. Boire n'importe quelle boisson en conduisant, même du café ou de l'eau, est illégal à Chypre. En Australie, la loi interdit de sortir la main par la fenêtre, même pour saluer un ami. En Thaïlande, il est illégal de conduire torse nu. Et, dans la plupart des pays scandinaves, les conducteurs doivent toujours allumer leur phare, même le jour. 6. Peut-on imaginer recevoir une contravention de 400 000 $ pour un excès de vitesse? C'est arrivé à un conducteur suédois de 53 ans, intercepté au volant de sa Ferrari Testarossa alors qu'il traversait un village en Suisse en roulant à 137 km/h, soit 57 km au-dessus de la limite permise. En Suisse, conduire en dépassant la limite de plus de 20 km constitue une infraction criminelle passible d'une amende basée sur le revenu du fautif. 7. L'Allemagne est l'un des rares pays à ne pas imposer de limite de vitesse sur ses autoroutes. Et même si la vitesse moyenne sur les célèbres autobahnes s'élève à 142 km/h, ce système ferait partie des réseaux autoroutiers les plus sécuritaires au monde. L'Allemagne songe toutefois à y appliquer une vitesse maximum de 130 km/h pour lutter contre les changements climatiques. 8. La première radio est arrivée à bord de la voiture dans les années 1930, mais constituait à l'époque une option coûteuse, fonctionnant seulement sur les ondes AM. La radio AM-FM standard n'a été inventée qu'en 1953. Depuis, les options n'ont cessé d'évoluer avec l'arrivée du lecteur de cartouches à 8 pistes dans les années 1960, le lecteur de cassette dans les années 1970, le lecteur de CD dans les années 1980 et, finalement, les services actuels en continu comme Spotify et Apple Music. 9. En 1984, les Suisses, Émile et Liliana Schmid, ont pris place à bord de leur Toyota Land Cruiser bleu vif pour entreprendre le plus long voyage en voiture à ce jour. Maintenant octogénaires, ils ont parcouru, en 39 ans, plus de 741 065 km dans 186 pays. 10. L'Alaska's Dalton Highway est considérée comme l'une des routes les plus dangereuses au monde. Le chemin à deux voies en gravier s'étire sur 666 kilomètres. Son isolement fait partie des facteurs de risque, avec seulement 3 stations-service, aucun réseau cellulaire, des nids de poules comme des cratères et des conditions hivernales extrêmes. Les autres routes à haut risque sont le Death Road en Bolivie, ainsi que la A537 en Grande-Bretagne. 11. On vole une voiture toutes les 6 minutes au Canada et les compagnies d'assurance ont dû payer en 2022 plus de 1 milliard de dollars en réclamations. Selon la police de Toronto, les voitures équipées d'un bouton de démarrage sont plus vulnérables car les criminels peuvent voler le signal émis par les clés rangées dans la maison en utilisant des transmetteurs sans fil. 12. Conduire un véhicule en textant est 6 fois plus dangereux que conduire intoxiqué, selon le département américain des transports. Au Canada, la loi interdit d'utiliser tout appareil portable en conduisant, même immobilisé au feu de circulation. L'Ontario fait exception à cette règle dans une file d'attente d'un service au volant. Mais ne faites pas ça ailleurs, car vous pourriez vous retrouver avec une grosse amende et des points d'inaptitude et peut-être la suspension de votre véhicule ou même la prison. 13. Les voitures autonomes ont commencé à circuler dans certains États américains. Cette technologie fait encore face à d'importants enjeux de sécurité à la suite de freinages trop brusques et de centaines d'accidents rapportés. En novembre dernier, General Motors a suspendu les opérations de son unité de robotaxi Cruise après que le département californien des véhicules moteurs a estimé qu'il présentait un risque pour le public. En décembre, Tesla a rappelé plus de 2 millions de voitures équipées de son programme d'assistance à la conduite, Autopilot, pour des raisons de sécurité. C'était 13 faits sur la conduite automobile. Un texte de Stephanie Gray, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest.